Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. À la une, ce cri de cœur des déplacés du site de Ro dans l'Ituri. Nous avons besoin de l'assistance humanitaire et plus de protection pour accéder à nos champs. Ils l'ont dit hier à la chef de la MONUSCO. Bintou Keïta est en visite sur place justement pour évaluer l'ampleur de la crise et voir comment solliciter la contribution des partenaires. Dans ce journal aussi, la réaction d'un artiste congolais au sujet de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Delvis Salcero, évoluant à Paris, ancien du grand Zaïko Wawa et du groupe de Gérard Madiata, se dit satisfait de cette nouvelle, vous l'entendrez. Et puis, pour juguler la corruption, il faut sensibiliser toute la communauté sur ses conséquences et renforcer la répression. C'est ce que recommande le président de l'ONG à Cage. C'était à l'occasion de la journée de lutte contre la corruption. Georges Kapiamba est l'invité de ce journal. Madame, messieurs, bonjour. Nous avons besoin de l'assistance humanitaire ou bénéficier de plus de protection pour nous permettre d'accéder à nos champs. C'est ce qu'ont déclaré hier les personnes déplacées installées au site de Ro dans le territoire de Djougou. C'était devant la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Madame Bintou Keïta s'est rendue sur place pour s'imprégner des conditions de vie de ces vulnérables, estimées à ce jour à 74 000 personnes. Ce, en vue de voir dans quelle mesure mener des plaidoyers auprès des partenaires humanitaires. Cette mission ne peut être possible que si tous les partenaires mutualisent leurs efforts pour résoudre cette crise, a déclaré la chef de la MONUSCO. Jean-Claude Lokidile faisait partie de cette délégation. Voici son reportage.
Ces échanges ont réuni autour de la table, tour à tour, les responsables des différents sites des déplacés installés dans la zone, les chefs coutumiers, les représentants des jeunes. Durant près de 4 heures, ces personnes ont décrit à leur hôte les conditions de vie difficiles dans lesquelles elles vivent sur ce site de Ro, comme le témoigne Henriette Goudassi, membre du comité de déplacés.
Ici, nous vivons très misérablement. Nous sommes tués comme des bêtes. Nous, les mamans, nous sommes violées. Nos enfants n'étudient pas. Nous ne venons même pas dans nos champs. Nous manquons de quoi vivre. Nous sommes dépourvus de tout. À notre gouvernement congolais, qu'on nous protège pour que nous regagnions notre communauté. Nous devons mieux vivre chez nous si nous sommes sécurisés chez nous.
Pour la chef de la MONUSCO, le but de sa visite à Ro était de mesurer l'ampleur de la crise et de voir comment solliciter la contribution des partenaires, parmi lesquels le gouvernement et les humanitaires, afin que ces déplacés qui ont fui les attaques des assaillants de la Codeco mérite une attention particulière. Bintou Keïta.
C'est une demande de retour aux zones où les personnes ont dû fuir et peut-être d'adopter une stratégie différente, de voir est-ce qu'on peut créer d'autres poches plus près des villages où les populations ont accès à leurs champs.
De son retour à Bounia, la responsable de la MONUSCO a rencontré le gouverneur de l'Ituri avant de poursuivre ce mercredi ses consultations avec les responsables des différentes couches de la population Bounia. Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Réaction des représentants des déplacés de site de Ro ainsi que des notables du milieu à la suite de la visite hier de la chef de la MONUSCO. Je le cite, nous sommes très reconnaissants de la protection qu'apportent les casques bleus de la MONUSCO aux personnes qui ont fui les atrocités des groupes armés de la CODECO réfugiés à Ro. Pour ces personnes en détresse, n'eût été la présence des casques bleus à côté de leur site. Le nombre des victimes des atrocités des assaillants de la CODECO serait très élevé. Ils demandent cependant à la chef de la MONUSCO de plaider auprès des autorités pour que leur situation sécuritaire et humanitaire s'améliore. Josaphat Dino, un des déplacés, s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
Nous remercions, nous saluons l'effort de la MONUSCO puisque récemment les ennemis sont venus attaquer la base des Ro. Ça allait être vraiment très grave, mais la MONUSCO se sont donné corps et âme jusqu'à ce qu'ils ont repoussé les ennemis. Et puis nous n'avons pas connu perte de vie ni cas de blessures ici dans notre site de Ro. Si ces casques bleus n'intervenaient pas, puisque comme les gens sont déplacés, plus de 70 000 personnes, le cas de mort devait même dépasser 100 personnes. Ils ont fait l'affrontement même au-delà d'une heure du temps avec ces rebelles de Côte. Comme il n'y avait pas de secours, on devait avoir beaucoup de cas de mort s'il n'y avait pas la MONUSCO.
Santé. Le coronavirus continue sa progression en RDC après une période d'accalmie caractérisée par la diminution des nombres des cas de contamination. Cependant, la réticence à la vaccination et le relâchement dans l'observance des mesures barrières gagnent du terrain, notamment dans le Lualaba. Voilà qui justifie le lancement hier à Kolwezi de la seconde phase de la campagne de vaccination anti-Covid par le gouverneur intérimaire. Des détails avec Jean Gandou.
Dans le Lualaba, l'autorité provinciale appelle ses administrés à une prise de conscience collective. Appel lancé ce mardi au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Fifi Masuka en a profité pour demander à toute la population de Kolwezi en particulier et à celle du Lualaba en général à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre cette maladie. Pour cela, elle a invité les autorités politico-administratives des différentes entités de la province à s'impliquer pour que les personnes éligibles se fassent vacciner. Fifi Masuka.
À toutes les autorités locales, des centres investir afin que toutes les personnes ciblées soient vaccinées pour ainsi protéger et contribuer à protéger les autres. C'est sur cet appel à la mobilisation générale que je lance solennellement la seconde phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Lualaba.
Parallèlement à cet appel, la population a été invitée à respecter les mesures barrières pour éviter d'attraper cette maladie dont la quatrième vague avec le variant Omicron a été déclarée en RDC. Le Lualaba dispose à ce jour des quatre types de vaccins dont Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac. À noter que cette province compte déjà plus de 2630 cas de COVID-19 avec 60 décès. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Du côté du Nord Kivu, l'UNICEF et les structures sanitaires de Beni ont lancé hier une campagne de sensibilisation sur l'alimentation des nouveau-nés dans la ville de Beni. Le thème de cette campagne, l'idéal, c'est avoir des enfants qui grandissent sans sel ni sucre dans leurs premières années de vie. Pour le docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille, les parents doivent faire plus attention à l'alimentation de leurs enfants. Docteur Gisèle Kilomba est au micro de Marc Marofimbo.
Je peux demander à toutes ces dames-là qui travaillent, qui laissent les enfants à la maison, de veiller sur l'alimentation. Ce n'est pas pour rien qu'on nous donne toujours une heure d'aller nourrir nos enfants. De 0 à 1 année, on a ce temps-là. Et instruire la personne qui garde l'enfant, qui ne donne pas ceci à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a de ces enfants qui développent des maladies dans les jeunes âges. L'obésité, par exemple. Il y a d'autres pathologies métaboliques liées à l'absorption inappropriée de certaines choses telles que les sucres, les sels. Il y a des enfants qui font le diabète dans les jeunes âges. Ça vient d'où? Ce sont des facteurs qui ont poussé aux chercheurs de nous suggérer cela. Vraiment, nous devons diminuer. Je sais que ce n'est pas facile, mais l'idéal, c'est avoir des enfants qui grandissent sans sel ou sucre. Ici, tu vas voir les nourrissons. De 2 mois, on lui donne déjà les foufous avec la sauce salée. L'enfant ne peut pas refuser parce qu'il ne connaît pas. Quand tu lui donnes, il va s'habituer. Mais tu crées des conséquences sur la digestion de cet enfant, le métabolisme qui doit grandir.
Direction la province de Maïndombe. Les cas de naufrage sur le fleuve Congo ou sur le lac Maïndombe font encore l'actualité. Dernier cas en date, vendredi dernier, naufrage au niveau du village Ibali, près de la cité de Kwamout. Bilan 13 morts, dont tous les membres de l'équipage et des dégâts matériels importants. Selon le gouverneur intérimaire, ces matériaux destinés aux travaux de finissage de la construction du siège de l'Assemblée provinciale sont estimés à plus de 100 000 $, ainsi que plusieurs marchandises des passagers. D'autres détails avec Irène Boma.
Après ce naufrage du vendredi dernier, le gouverneur intérimaire du Maïndombe trouve qu'il est regrettable d'enregistrer à chaque fois des pertes en vie humaine et des biens de valeur à cause des noyades sur le lac Maïndombe ou sur le fleuve Congo. Maître Jacques Mbombaka s'est dit préoccupé et rassure que des mesures sont en train d'être prises pour éviter ce genre de drame dans l'avenir.
Je ne peux qu'exprimer ma profonde douleur de voir tout le temps les gens mourir, parfois dans le fleuve et parfois dans les lacs. Le gouvernement provincial, les sièges aménagés, les efforts pour changer les conditions de vie de nos populations en les octroyant le meilleur cadre de navigation. Ces conditions vont changer dans les jours à venir. Nous avons déjà trop enregistré au cours de ces décennies. Après avoir perdu des biens importants de plus de 100 000 $ qui devraient finir les travaux de l'Assemblée provinciale de notre province, chavirer avec la baleinière, ce qui est très regrettable. Regrettable parce que nous avons perdu la population de notre province qui s'est noyés.
Le gouverneur Mbombaka indique que des enquêtes sont en cours pour retrouver d'autres corps et des biens importants qui sont sous l'eau. En attendant, les 17 rescapés sont déjà assistés par la province qui va aussi étudier comment indemniser les victimes, a déclaré l'autorité provinciale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous au Maniema. Le gouverneur par intérim vient d'accorder aux usagers de la route une période de courtoisie routière. Elle commence aujourd'hui jusqu'au 5 janvier 2022. Dans un message officiel rendu public hier, Afani Idrissa Mangala fait savoir qu'en cette période, tous les préposés de l'État sur différentes artères seront à leur poste pour garantir la libre circulation et la sécurité de la population et de leurs biens. Le porte-parole du gouverneur intérimaire, Maxime Kaseya, revient sur ce communiqué dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Le gouverneur à l'intérim de la province du Maniema porte à la connaissance de la population de la ville de Kindu en particulier et celle de la province du Maniema en général qu'une période de courtoisie routière est observée du 15 décembre 2021 au 5 janvier 2022. À cet effet, il est strictement interdit sous peine de sanctions exemplaires d'entretenir aux différents lieux de passage toute tracasserie notamment en imposition ou prélèvement de quelque nature que ce soit excepté les péages routes sur les paisibles citoyens. Quant aux il est obligatoirement demandé de respecter les codes de la route et de profiter de cette période de courtoisie routière pour se mettre en ordre vis-à-vis des services compétents en se comportant en digne citoyen respectueux des valeurs républicaines. Bonne fête de fin d'année à tous et à chacun.
Et du côté du Sud Kivu, la ville de Bukavu se prépare à fêter justement Noël et Nouvel An. Un imposant sapin de Noël qui s'illumine le soir a été monté à la place Mulamba par une banque de la place depuis quelques jours. C'est une première dans la ville de Bukavu et cela ne laisse pas indifférents les passants. C'est un reportage signé Cynthia Bachizi Nabizana.
Ce sapin fait plus de 10 mètres de hauteur. Il est en fer forgé, habillé de rubans verts et noirs. Plusieurs boules de Noël dorées et autres petites décorations telles que des couronnes de Noël y sont suspendues. Et c'est le soir que la magie de Noël brille de mille feux lorsque les guirlandes lumineuses posées sur le sapin s'allument. Témoignage d'une jeune dame qui habite aux alentours.
Ah, les sapins, c'est beau à voir vraiment. Moi-même, hier soir, je suis passée par là. Ça m'a étonnée. J'ai vu que c'était beau. Même les enfants en allant à l'école m'ont dit, maman, tiens, j'ai vu la place Mulamba. C'est joli. La fête de Noël a déjà commencé. Si on voit chaque année comme ça, on sera heureux.
Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux, hein, au final. Hein?
Ah oui. Juste ça, vraiment. On était contents. C'est beau. C'est bon à voir.
Par ailleurs, la ville de Bukavu n'a jamais connu une aussi imposante décoration publique pour les fêtes de fin d'année. C'est ainsi que, dans les causeries du café de commerce, d'aucuns questionnent l'utilité de cette œuvre, voire même son habillage noir et vert. C'est bien la preuve que ce géant arbre de Noël qui sera là jusqu'au 15 janvier ne laisse pas indifférent. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, vous le savez, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. En réaction à cette nouvelle, l'artiste congolais Delvis Salcero, évoluant à Paris en France, ancien de Grand Zaïko Wawa et du groupe de Gérard Madiata, s'est dit satisfait de la reconnaissance de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Delvis Salcero a été joint depuis Paris par Kaki Akiewa.
Je suis Delvis Salcero del Piero. Je suis très content parce qu'il y a cela deux années de siècle que la rumba existait. La rumba vient du Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville. Nos frères qui sont partis de l'autre côté, ils ont ramené ce style. Ils ont exploité ça autrement. Aujourd'hui, je suis fier de la rumba et je disais ça depuis des années, que la rumba reste et restera. C'est comme du jazz. Cela 20 ans, moi et Popo Lepo, on a eu cette idée aussi de faire une compil de chansons, même de Franco. Quand il y a des indépendants de pays africains, moi et Manouakou, on a eu l'idée de faire le grand classique de la musique congolaise. Réilema, Utamai, Tomblenskunku, on a repris les chansons du Décongo. Mamaï Bikobota, Maswa de Pamelo, Emea Bolingo, les Kambo de Franklin Bukaka. La rumba existe et existera.
Actualité internationale.
Le don de lait maternel peut sauver des bébés. L'Afrique du Sud compte près de 30 banques de lait maternel, principalement situées dans les établissements de santé publique. Selon la South African Breast Milk Reserve, le lait maternel est l'aliment optimal le plus sûr pour les enfants prématurés et à terme. Cependant, la banque de lait indique que les niveaux des dons en Afrique du Sud ne sont pas stables. Le nouveau variant Omicron pourrait devenir dominant parmi les infections de COVID-19 en Europe d'ici mi-janvier. Cette mise en garde est de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en ajoutant qu'il y avait désormais assez de vaccins pour tous les Européens. Vu l'actuelle progression rapide des cas, la science nous dit que nous devons nous attendre à ce que Omicron soit déjà le nouveau variant dominant en Europe à la mi-janvier, a déclaré Madame von der Leyen au Parlement européen à Strasbourg.
L'invité.
Le 9 décembre, le monde a célébré la journée de lutte contre la corruption en RDC. Cette pratique qui est décriée ne cesse cependant de s'enraciner. Pour Georges Kapiamba, président national de l'ONG Association pour l'accès à la justice, ACAJ, pour juguler ce mal, il faut d'une part commencer par la sensibilisation de toute la communauté sur ses conséquences et de l'autre, renforcer la répression sans compromission. Georges Kapiamba s'entretient à ce sujet avec Jean Gandou.
Georges Kapiamba, bonjour.
Bonjour Jean Gandou.
Le 9 décembre dernier, le monde entier a célébré la journée de lutte contre la corruption et cela a coïncidé avec les ateliers de sensibilisation contre la corruption que votre ONG ACAJ organisait à Lubumbashi. D'entrée de jeu, dites-nous, que peut-on entendre par corruption?
La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne appelée corrompue sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse de présent ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction de corruption a une double portée parce qu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. C'est ainsi qu'on distingue la corruption active qui est du fait du corrupteur et la corruption passive qui est du fait du corrompu. Cette approche de la corruption est importante parce que elle permet d'inclure dans les formes de la corruption, notamment les dessous des tables, les pots de vin, les extorsions, les paiements des facilitations, les trafics d'influence et les blanchiments de toutes ces pratiques. C'est lorsque, par exemple, quelqu'un a perçu une somme d'argent du fait d'un acte, d'une opération de corruption, qu'il achète un immeuble, il loue, le loyer qu'il perçoit est un produit du blanchiment de la pratique de corruption.
Et quelles sont les différentes formes de corruption qu'il y a en RDC et quelle est celle qui est beaucoup plus en vue?
En dehors de celles que j'ai indiquées, il faut aussi ajouter l'abus de fonctions, les abstentions coupables, les obstructions à la justice, par exemple les gens qui se permettent d'intervenir pour X, Y en vue de lui faire gagner par exemple un procès de manière malhonnête, de manière irrégulière, ceux-là doivent savoir qu'ils commettent des actes de corruption. Parmi ces formes la plus répandue dans notre pays, c'est le trafic d'influence qu'il faut entendre comme les faits par quelconque de solliciter ou d'agréer à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision. Et donc, entre la corruption et le trafic d'influence, quelle peut être la différence entre les deux? Il faut tout simplement insister sur le fait que la notion de trafic d'influence, elle est plus proche de la corruption, donc c'est une corruption. Et que la petite différence peut résider en ce que le trafic d'influence nécessite la présence d'un intermédiaire entre les bénéficiaires potentiels et l'autorité publique qui va user de son influence pour obtenir la décision souhaitée. Par contre, dans la corruption, nous n'avons que d'un côté un corrupteur et de l'autre côté un corrompu.
Et que faudra-t-il pour la RDC déjuguler la corruption et sur quoi le pays devrait-il se fonder pour y parvenir?
Pour juguler la corruption, nous proposons deux choses. Il faut prévenir la corruption, mais pour prévenir la corruption, il faut intensifier la sensibilisation, l'éducation civique sur les conséquences de la corruption dans notre société, sur tous les plans. Et cette éducation doit se faire en commençant, à notre avis, par l'école maternelle jusqu'à l'université. Et même l'étendre aussi dans tous les secteurs professionnels. Deuxièmement, il faut renforcer la répression. La répression suppose qu'il faudrait que les acteurs qui sont chargés de la lutte contre la corruption ou de l'application de la loi soient stricts, rigoureux, efficaces et qu'ils soient eux-mêmes déjà exemplaires, de manière à détecter à temps, identifier les actes de corruption, les corrupteurs, les corrompus, les intermédiaires dans les trafics d'influence, monter les dossiers, rapidement saisir l'autorité judiciaire compétente.
Georges Kapiamba, je vous remercie.
Le président de l'ONG ACAJ était avec Jean Gandou Kabongo. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Alain Goy était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.